Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission des Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la course de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue la totalité de la semaine, nous recevons ici au studio Madame Isabelle Pendeza Bikai. Elle est membre de la société civile du Nord Kivu et elle est présidente du collectif des associations féminines pour le développement CAFED en sigle. Bonjour Madame Isabelle Pendeza Bikai.
Bonjour Monsieur Guy Mathé, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent aussi.
Bernard Mbouyi, il est journaliste et directeur du site d'information économique finance-cd.com. Bonjour Bernard Mbouyi.
Bonjour Guy Mathé, bonjour et merci de m'avoir invité pour cette émission.
Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Benoît Feit, il est journaliste à la RTBF. Bonjour Benoît Feit.
Oui, bonjour Guy, bonjour à tous les auditeurs, toutes les auditrices de Radio Okapi. Je suis ravi de vous retrouver. Bonjour également aux autres journalistes intervenants de votre émission.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de cette journée d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Connaissez-vous la monkeypox? C'est une maladie virale contagieuse qui se transmet principalement par contact direct de l'animal trouvé mort ou malade avec ou sans signe de monkeypox à la personne non malade. Entre les hommes, la transmission de la monkeypox s'est faite à travers des lésions, voire plaies de liquide organique comme la sueur, des gouttelettes respiratoires, des objets souillés par des malades de monkeypox et le rapport sexuel avec une personne malade de monkeypox. Pour nous protéger contre la monkeypox, il faut éviter de toucher les animaux malades ou trouver morts sans cause, éviter tout contact physique ou sexuel avec une personne malade de monkeypox et éviter tout contact avec les objets souillés par des malades de monkeypox.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler gratuitement au 151 ou adressez-vous directement à un prestateur de santé ou à un agent de santé communautaire.
Nous sommes dans le regard sur la totalité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Bernard Mbouyi, les journalistes et les acteurs du site d'information économique finance-cd.com. Madame Isabelle Pendeza Bikai, elle est membre de la société civile du Nord Kivu et elle est présidente du collectif des associations féminines pour le développement café dans sigle. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Benoît Feit, il est journaliste à la RTBF. Au menu de cette émission, dispersion ce jeudi par la police nationale à Kinshasa de la manifestation du collectif Sursaut National pour sa campagne « Ne touche pas à ma constitution » après l'interpellation de l'opposant d'Elie Sesanga. Controverse autour des 2,8 milliards de dollars américains accordés à la RDC par la FMI. Et enfin, clôture prévue ce samedi des états généraux de la justice, quid de l'implication de la population dans le fonctionnement de la justice en RDC. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de l'installation par les M23 d'une administration parallèle à Rutshuru. En effet, la société civile Force Vive de Rutshuru au Nord Kivu alerte sur un projet en cours d'installation d'une administration rebelle et parallèle dans son entité. Elle réagit ainsi à une décision nommant des nouveaux cadres à la tête de plusieurs cités à travers les territoires de Rutshuru, publiée mercredi 13 novembre par les rebelles du M23. Nous voulons rappeler à l'opinion tant nationale qu'internationale que ce que la société civile redoutée vient d'arriver. Nous avons toujours dénoncé que le M23 avait l'objectif de créer un État dans un État. Personne ne nous croyait. Mais aujourd'hui, avec cette architecture des autorités qui viennent d'être nommées, je crois que rien ne sert de douter, a affirmé le président de la coordination territoriale de la société civile Force Vive de Rutshuru, Jean-Claude Mbabazé. Ces nominations interviennent après celles de l'administrateur du territoire et des chefs de chefferie. La même source estime que le gouvernement congolais devrait s'activer à restaurer son autorité dans cette entité menacée de balkanisation. Bernard Mouilly, l'installation d'une administration parallèle à Rutshuru par les M23 n'était-elle pas prévisible?
Je ne crois pas que cette question-là mérite franchement de susciter le moindre débat, parce que c'est dans la logique des choses même, non? C'est tout à fait normal. Que veut dire rébellion? Rébellion, ça veut dire le fait de se révolter contre l'ordre établi, de se mettre ou de se mettre en dehors de loi. Donc un rebelle, c'est un hors la loi. Donc vous imaginez qu'un rebelle va se mettre à respecter la loi du gouvernement. Ça n'a aucun sens. Et dans tous les pays du monde, comme en RDC, les rébellions ont toujours fonctionné dans les territoires qui sont sous leur contrôle, avec leurs propres administrations. Ce n'est pas nouveau du tout. Monsieur Mbamba de la société civile du Nord Kivu a vécu la rébellion de l'AFDL. Quand l'AFDL s'est installée là-bas, on a nommé comme nouveau gouverneur Kanyamuhanga Léonard. Nord Kivu, on a nommé aussi Kivu. C'était le professeur qui est décédé, l'historien, il avait porté son nom Chubaka, j'oublie son nom. Donc c'est comme ça que ça a toujours fonctionné, donc le M23 ne va pas faire exception. Sous le RCD, c'était pareil, avec Atintima, gouverneur au sud Kivu, Nord Kivu, c'est ainsi que ça fonctionne. Vous n'imaginez quand même pas que des rebelles vont conquérir un espace, et puis ils laissaient fonctionner ceux qui le dirigeaient sous le gouvernement. D'ailleurs, ceux qui le dirigeaient sous le gouvernement sont tous partis, de toutes les façons. Donc, ils doivent s'administrer, c'est comme ça que ça fonctionne. Il ne faut pas en faire un cas particulier, non, c'est comme ça que ça fonctionne.
Merci. Merci, voilà. Madame Isabelle Pendeza-Bikay. L'enlisement du conflit n'avait-il pas préparé les conditions à cette situation d'aujourd'hui?
Merci beaucoup encore une fois de m'avoir accordé la parole. Je pense que tout ce que nous sommes en train de voir ou de vivre aujourd'hui, ce ne sont que des conséquences de la persistance de l'insécurité dans ces zones occupées par les rebelles. Et donc moi je pense que c'est quelque chose qui devrait vraiment interpeller les autorités du pays, parce que la société civile avait commencé par alerter sur ces choses-là, mais c'est aujourd'hui que tout le monde vient maintenant de se rendre compte que c'était une réalité. Et c'est quelque chose que nous devons tous déplorer, et personne ne peut être content d'attendre ou d'écouter ce genre d'histoire. Mais je pense que c'est la part du gouvernement congolais et des autorités congolaises de prendre leurs responsabilités en main et que la paix soit garantie et que le retour à une paix durable soit garanti.
Merci, Benoît Faït. Même si à ce stade, on ne peut pas parler d'une partition des fêtes, est-ce qu'on ne peut pas redouter cette éventualité?
Si, écoutez, je rejoindrai les deux interventions qui ont été faites par les autres intervenants, les autres invités. C'était effectivement d'une part prévisible, car c'est la nature des mouvements rebelles, comme ça a été dit, de grappiller du territoire et surtout d'essayer d'en tirer un maximum de profit. On sait qu'il y a un profit économique. Maintenant, l'idée est certainement d'occuper le terrain pour maximiser ses profits, mais aussi de déstabiliser encore un peu plus le pays, déstabiliser le pouvoir en place, déstabiliser l'armée congolaise, et ça fonctionne, et c'est, comme ça a été également répété, la conséquence de l'enlisement sur le terrain qu'on observe, l'armée congolaise étant malheureusement jusqu'à présent dans l'incapacité de récupérer les territoires qui sont occupés par le M23, et c'est d'ailleurs une réalité qu'on observe ailleurs, à l'Est, c'est également vrai, dans les territoires qui sont occupés par d'autres groupes armés dans d'autres provinces, et je vous dirais que vous êtes même mieux placé que moi pour le savoir, mais ce n'est pas une réalité qu'on observe uniquement à l'Est. Il y a d'autres régions du pays, que ce soit dans la Tchopo, que ce soit dans le Bandundu, dans Maindombe. On voit bien que la difficulté d'administrer complètement le territoire aujourd'hui est de plus en plus présente, et c'est inquiétant pour la population congolaise, pour le pouvoir en place au Congo, et c'est aussi inquiétant parce que ça risque de donner à terme des idées à d'autres. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas une bonne nouvelle, certainement pas.
Merci, on prend une petite pause avec Rebé des Pongolov et on revient juste après.
Eko tinda kaina bwa kaso tuye. prisonnière ou bébé, la salle est condamnée, oui, à l'amour. N'a colé la yadie, tio coco, ma coquille, manze la nyosoko, na le kao. Kosela yo likambo ya monene, paluka bipai bisoko bakakao. Nakotika mai ekauka na matama, soki batuni naloba seko ya repeo. Apitie, pitie niye, oh niye, apitie. Nani yako katela ngao, na mesana nanga boya kolinga na makasi teo. Na mesana nanga jisano ya basherie, na boya koso zela nukina kowao. Na mesana teo nga inalubie, papa kola ngangola, oh na teniseo. Nanga nalilao, mama. Mama, mama kamba kai, mama, mama konsole kai, mama. Ebanda boni na kanga pongi yo, na boma na niyo ya. Na chindi bato bato na na sekreo, kutu ya nini yo. Kenda wapio yao, na tuni bato bala kisipa ya kendao, na Amerika o.
C'était Rebe Defrid Pongolandou, connu sous le nom de Pongolov. Au réveil à côté cette semaine, l'opposant Deli Sesanga, président du parti Envol, a été brièvement interpellé et relâché jeudi 14 novembre à Kinshasa par la police nationale congolaise. Selon son parti politique qui dénonce cette interpellation qu'il qualifie de brutale, c'était lors d'une activité de sensibilisation de la population contre la révision ou les changements de la constitution. Rodrigue Ramazani, secrétaire général d'Envol, affirme que l'hôtel de ville était informé de cette campagne de sensibilisation lancé par la plateforme Sursaut Patriotique. Il déplore la dispersion des militants de cette structure par les forces de l'ordre. Benoît Feit, vous êtes journaliste à la RTBF. Vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler de cette actualité. On vous écoute.
Oui, effectivement, parce que la question du changement de la Constitution ou peut-être même carrément l'écriture d'une nouvelle Constitution est quelque chose qu'on observe avec un regard très attentif, même loin des frontières du Congo. Ici en Belgique, on avait vu la réélection du président Tshisekedi. J'étais moi-même présent en février dernier à Bruxelles lorsque le chef de l'État s'est rendu en Belgique pour rencontrer le premier ministre belge, Alexander De Croo. Et à cette occasion-là, j'avais interviewé Alexander De Croo, lui demandant finalement quel était le fond de la discussion qu'ils avaient eue ensemble. Et un des points que le Premier ministre belge avait soulevé en présence du président Tshisekedi, c'était bien de dire qu'aux yeux de la Belgique, il était important que la Constitution soit respectée et que le président s'engage évidemment à se limiter aux deux mandats qui étaient prévus par la Constitution. Ça, c'était il y a plusieurs mois. On entend depuis lors une rumeur qui maintenant s'est complètement confirmée qu'il y a clairement une volonté de réviser ou d'écrire une toute nouvelle constitution, réviser quelques articles ou la changer complètement. Et d'ailleurs, vous savez comme moi que ça a une réelle application, parce que dans la mesure où il est question d'écrire une nouvelle constitution, il y a forcément là derrière aussi la volonté de réétablir une nouvelle logique de mandat. Combien de mandats présidentiels? Quelle est la durée des mandats présidentiels? On sait que dans le chef de l'UDPS, il y a notamment le secrétaire général du parti qui souhaite allonger la durée du mandat, considérant que sur un mandat de 5 ans, finalement, on n'exerce le pouvoir qu'au cours de 3 ans. Et en face, il y a une opposition qui s'inquiète des dérives que cela pourra apporter. Alors, qui dit vrai dans cette affaire? Est-ce que la volonté du gouvernement est réellement aujourd'hui, enfin la volonté de la majorité présidentielle est réellement aujourd'hui de modifier la Constitution parce qu'elle aurait été écrite à l'étranger, qu'elle ne correspond pas aux réalités locales, qu'on en a besoin pour avancer? Ou est-ce qu'il s'agit finalement d'asseoir la mainmise du pouvoir sur le pays à terme? Il y a clairement un débat là-dessus et j'interviewais un membre éminent du centre de recherche Ebouteli à Kinshasa sur cette question, Trésor, qui me disait, écoutez, il y a probablement un peu de vrai et un peu de faux dans ce que tout le monde dit, mais le problème, c'est qu'il y a une polarisation du conflit autour des personnes, autour de la question des mandats, et que le débat aurait pu être beaucoup plus intéressant pour la population congolaise, pour les citoyens et les citoyennes congolais et congolaises, s'il avait été question de voir dans la Constitution actuelle quels sont éventuellement les articles qui permettraient d'être améliorés, révisés, pour aller vers plus de démocratie. En soi, une révision de la Constitution n'est pas une mauvaise chose. La question, c'est quelle est l'intention qu'il y a là derrière. Et il soulignait évidemment qu'il y avait aussi une part d'hypocrisie dans le chef de certains partis d'opposition qui s'opposaient à cette volonté aujourd'hui, alors que par le passé, certains partis de l'opposition avaient eux-mêmes demandé de réviser la Constitution. Donc, finalement, aujourd'hui, ce qui inquiète l'opinion publique mondiale, je dirais, a fortiori celle que moi je connais ici en Belgique, en Europe, en Occident, c'est de se dire, sur quelle voie est lancé le Congo aujourd'hui? Est-ce que c'est une voie qui va améliorer la situation des droits de l'homme, de l'état de droit et de la démocratie? Ou est-ce qu'on se dirige vers autre chose? Et malheureusement, un débat qui aurait pu être hautement intéressant pour ressouder les liens des citoyens congolais autour d'un projet commun pourrait apporter.
Et donc, on voulait dire que si l'initiateur des chefs de l'État, ainsi que son parti politique, l'UDPS, avait formellement, clairement communiqué sur ses projets, il n'y aurait pas assez d'élever des boucliers comme on l'observe aujourd'hui?
Disons que si le débat avait été abordé pour ouvrir le débat à la population tout entière en disant ben finalement voilà, aujourd'hui nous avons une constitution telle qu'elle est, est-ce que on pourrait améliorer la démocratie en modifiant cette constitution, si l'intention avait été vraiment construite comme ça, en tout cas communiquée comme ça, parce que loin de moi l'idée de faire des procès d'intention, mais en tout cas j'entends que dans la communication qu'il y a autour de ce projet de révision, eh bien ça suscite des levées de boucliers. Et peut-être qu'en communiquant autrement, on aurait pu faire un grand débat public à travers le pays qui aurait permis à tous les Congolais et les Congolaises de s'impliquer dans un projet commun. Est-ce qu'il aurait été présenté comme ça, comme une bonne chose? Ce n'est évidemment pas à moi de dire aux Congolais et aux Congolaises ce qu'ils doivent avoir dans leurs articles de la Constitution, mais je remarque une chose, Guy, c'est que le pouvoir a mis en avant l'argument de dire que cette Constitution avait été écrite par des étrangers. Alors qu'on sait qu'en fait, elle a été écrite par des Congolais, qu'elle a été plébiscitée, je pense, à plus de 80% par un référendum. Donc, il y a là derrière probablement la volonté d'attiser la fibre souverainiste, comme ça a été fait lors de la campagne présidentielle. On a vu que ça a très bien fonctionné. Mais moi, j'ai toujours des craintes derrière les discours souverainistes et nationalistes. Je ne suis pas persuadé que pointer du doigt les méchants étrangers soit la meilleure manière de ressouder les liens au sein d'une nation et de créer des relations fraternelles avec les autres pays. Même si, dans le cas du Congo, je sais que c'est un pays en guerre, donc on ne va pas non plus fraterniser avec tout le monde et à n'importe quelle condition. Mais la fibre souverainiste, dénoncer la mainmise des étrangers sur un pays n'est probablement pas la manière la plus honnête d'aborder tous les débats politiques. Et là, je crains que ça soit un biais qui ne va peut-être pourrir le débat.
Merci. Madame Isabelle Pendeza, vous êtes membre de la société civile du Nord Kivu, vous êtes présidente du collectif des associations féminines pour le développement Café dans Sigle. Vous avez suivi ce que Benoît Feit a dit au sujet de cette question. Et s'il faut revenir, n'est-ce pas, à cette manifestation, on sait qu'il y aura certainement d'autres manifestations parce que ce n'est que la première. À votre avis, vous, en tant que société civile, comment le gouvernement devrait-il faire pour gérer cette situation qui n'est fait que commencer?
Merci beaucoup encore. Nous sommes dans un pays démocratique et où chacun a un droit à la liberté d'expression et aussi à manifester son point de vue. De deux, je sais que tout le monde ne peut pas être d'accord avec, tout ce que tout le monde dit ou ce que tout le monde fait. Je salue le courage d'abord de personnes qui sont en train d'intervenir pour ce qui concerne les changements ou soit de la modification, soit de la révision de la Constitution. C'est de leur droit de s'opposer ou de ne pas accepter peut-être ce que les autres ont dit. Je suis aussi d'accord avec les personnes qui disent que non, ben oui, la Constitution mérite d'être révisée. Il y a des éléments qui ne nous plaisent pas, il y a des choses qui ne nous facilitent pas la tâche. Et donc, tout le monde a ses raisons et je pense que ce qui est très important, c'est qu'on puisse quand même arriver à se comprendre et à respecter aussi le point de vue des uns et des autres. Néanmoins, je pense, comme je l'ai encore dit la fois passée, le monde évolue. Et la Constitution aussi peut encore aussi avoir certaines choses à modifier si et seulement si on se met d'accord et si les gens se mettent autour d'une table pour discuter, pour ne pas nous mettre encore en difficulté comme ça a été la fois passée, les années passées. De deux, je pense que la Constitution devrait être considérée comme un document d'une parcelle familiale et qu'avant de toucher au document la parcelle ou soit avant de vendre par exemple la parcelle, il faut le consentement de toutes les parties, il faut impliquer tout le monde afin de trouver une décision finale afin de procéder à l'achat ou soit à la vente de la parcelle. Mais pour ce qui concerne la révision de la Constitution, je pense le message qui a été lancé, c'était lancé par le président de la République à Kisangani, et selon moi ce n'était pas un cadre approprié pour lancer ce message, parce que, en fait, c'est la question de la nation qui doit être d'abord placée en avant-plan et que les autres points de vue politiques, on doit quand même les mettre au deuxième plan. Et dans tout cela, une partie peut-être ne s'était pas sentie beaucoup plus impliquée ou s'est sentie frustrée. Mais avant d'y arriver, je ne pense pas que le président de la République a dit qu'il est lui-même il va s'imposer pour le changer. Je pense qu'il est disponible aussi à écouter le point de vue des uns et des autres. Et c'est ce que nous, en tant que population civile, nous devons souhaiter. Nous n'avons pas besoin que les conséquences politiques puissent encore tomber sur la population et que les populations soient exposées encore à des deuils sans fin. Nous avons besoin que nos autorités, si réellement ils ont besoin d'apporter une solution au problème de Congolais, qu'ils se mettent d'accord et qu'ils puissent discuter. S'ils sont d'accord, ok, s'ils ne sont pas d'accord, je pense qu'il y a un processus, il y a différentes procédures à suivre avant d'arriver à un changement ou encore à une modification de la Constitution.
Merci, Bélam Moui. Vous êtes journaliste et directeur du site d'information économique finance-cd.com. Quelle est votre lecture par rapport à la manière dont la manifestation de l'opposition a été gérée hier par la police? Mais aussi, l'autre question au-delà, n'est-ce pas, de cette manifestation, l'autre question par rapport à ce débat sur la révision ou le changement de la Constitution, l'autre question qui se pose, c'est le silence, j'avais posé la même question la fois passée, le silence des autorités morales au sein de l'Union sacrée de la nation. Ce silence, à votre avis, est-il un signe d'adhésion à la demande ou à la démarche du chef de l'État de réviser ou de changer la Constitution, ou c'est plutôt la manifestation d'un certain embarras, n'est-ce pas, dans lequel se trouvent ses alliés du chef de l'État par rapport à cette question précise?
Merci beaucoup, Guy. Je commence par la deuxième question. Ce silence, nous y avons consacré un article d'ailleurs depuis longtemps. Ce silence tient vraiment de l'embarras qui caractérise les principaux leaders de l'Union sacrée. Citons-les, il s'agit de Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, Bati Lukwebo notamment, en tout cas, c'est-à-dire ceux qui ont une vocation à concourir un jour ou l'autre à la présidence de la République. Donc ceux qui ont des partis assis, représentatifs au sein de l'opinion publique congolaise. Faisons un peu simple. C'est vrai que jusqu'à ce jour, il n'existe pas encore un canevas officiel qui nous explique, voilà, nous voulons retoucher la Constitution sur tel point. Ou encore, nous voulons plutôt écrire une nouvelle Constitution qui serait fondée sur ça, tel point. Et qu'est-ce qu'on fait des mandats présidentiels? On les allonge de 5 à 7 ans, comme on en entend parfois, ou on les garde à 5 ans, on remet les compteurs à zéro, ou bien on garde les anciens mandats tels qu'ils étaient déjà. Donc il n'y a pas encore eu quelque chose de clair qui nous a déjà été présenté. Mais si nous en jugeons par le bout des rumeurs que nous entendons par-ci par-là, notamment les déclarations du secrétaire général de l'UDPS, qui est comme le parti au pouvoir, quand on est le chef du parti au pouvoir, on est forcément un grand responsable du pays. Et lorsque M. Kabouy a dit que 5 ans ce n'est pas suffisant pour gouverner, appliquer son programme, ça veut dire qu'il pense certainement à un septennat. Supposons que on arrive effectivement à changer de constitution et qu'on instaure le septennat avec deux mandats non renouvelables. Ça voudrait dire que le président actuel pourrait, en principe, continuer son mandat jusqu'à 2042. Vous imaginez? Donc, si le président actuel va jusqu'en 2042, Kamere, à ce moment-là, aura 83 ans. Jean-Pierre Bemba aura 80 ans. Vous imaginez, donc, ça veut dire que c'est des gens qui auront déjà leur carrière politique totalement finie à ce moment-là. Ce n'est pas 83 ans qu'on commence une ambition pour devenir président de la République. Donc, Vital Kamerhe, comme Jean-Pierre Bemba, ce sont des gens qui foncièrement doivent être opposés à cette idée de soit d'écrire une nouvelle constitution, soit de réviser celle actuellement en cours, sur ces dispositions intangibles qui portent notamment sur la longueur et la limitation des mandats présidentiels.
Vous dites qu'ils doivent être opposés, mais il faut rappeler ici que les deux personnalités n'ont encore rien dit à ce sujet.
Ils n'ont encore rien dit, étant donné qu'il n'y a pas encore quelque chose d'officiel. L'affaire n'a pas encore été abordée au gouvernement, une proposition en ce sens n'a pas encore été transmise au Parlement, il n'y a encore rien d'officiel. Donc ils ne peuvent pas à ce niveau, se prononcer.
Merci.
Et j'aimerais terminer par la dispersion de la manifestation du collectif non à la révision de la Constitution, touche pas ma Constitution, en disant ceci. Il y a deux images qui me sont montées à la mémoire. J'ai vu l'image de Étienne Tshisekedi le 14 janvier 1988, ce n'était pas un parti autorisé, pendant la dictature de Mobutu. L'UDPS avait tenté d'organiser un meeting au pont Kabu ici à Kinshasa, à l'endroit où il y a le stade des martyrs aujourd'hui. La meeting fut réprimée dans une brutalité terrible par la garde prétorienne de Mobutu, la DSP, et Tshisekedi fut arrêté. Et quand on l'a amené pour le juger à ce qui est aujourd'hui à sa nef, il était vraiment maltraité par les agents de la police qui le tenaient par la ceinture du pantalon. Je crois que beaucoup de gens se rappellent de cette image-là. Aujourd'hui, des années plus tard, des décennies plus tard, l'UDPS est au pouvoir. Et j'ai vu des policiers tenir M. Sessanga de la même façon que les policiers de Mobutu tenaient Tshisekedi en 88. Je me suis posé la question de savoir, franchement, ce combat pour la démocratie, c'était pour qu'on fasse la même chose qu'on a combattu sous Mobutu ou pas.
Merci.
Voilà.
Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Papa Noël Nedoulé, ce célèbre auteur, compositeur et guitariste, est mort lundi 11 novembre 2024 en France à l'âge de 83 ans à la suite d'une maladie. Auteur de plusieurs chansons à succès dans l'orchestre Hockey Jazz et dans sa carrière solo avec La Sacarito, Papa Noël Nedoulé était sur le point de fêter ses 84 ans le 25 décembre 2024. Et pour lui rendre hommage, on va écouter un de ses classiques intitulé Bel Ami et on revient juste après.
Maman,
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de cette émission, nous avons fait un commentaire sur l'installation par les M23 d'une administration parallèle à Autourou. Nous avons également analysé la manifestation organisée hier par l'opposition pour dénoncer la démarche visant à réviser ou changer la constitution ici à Kinshasa et qui a été dispersée par la police nationale congolaise. Participe à cette émission, Bélar Mbouy, il est journaliste et directeur du site d'information économique et finance-cd.com. Madame Isabelle Pendeza Bikay, elle est membre de la société civile du Nord Kivu et elle est présidente du collectif des associations féminines pour le développement Café d'un sigle. En ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Benoît Feit, il est journaliste à la RTBF. Le ministre des Finances se félicite de l'aboutissement heureux des discussions avec le FMI sur deux nouveaux programmes conclus entre la RDC et les Fonds monétaires internationaux. Grâce à ces programmes, les pays vont bénéficier d'un montant équivalent à 2,8 milliards de dollars américains du Fonds monétaire international. Pour le ministre Doudou Fouamba, ces initiatives incarnent la détermination du gouvernement à moderniser son économie. Il a dit jeudi lors d'une conférence co-animée avec le ministre d'État du Budget et les représentants pays du Fonds monétaire international FMI. Ces programmes visent à renforcer la stabilité financière de la RDC tout en accélérant des réformes essentielles pour garantir un avenir prospère et durable, a affirmé le ministre des Finances. En réaction, le député national Augustin Matata Ponyo dit ne pas comprendre comment le FMI peut conclure des nouveaux programmes de plus de 2,8 milliards de dollars américains avec un pays dont l'économie ne répond à aucun critère quantitatif du FMI. Dénonçant les détournements de plus de 1,5 milliard de dollars américains de l'argent décaissé par les FMI lors du premier programme, l'ancien Premier ministre estime qu'en accordant des crédits à la RDC qui augmente la dette publique extérieure du pays, le FMI accompagne le sous-développement de la RDC. Bernard Mbouyé, vous avez opté pour cette controverse autour de ces 2,8 milliards de dollars américains que le FMI vient d'accorder à la RDC. On vous écoute.
Eh bien, merci beaucoup Guy. Je crois que il est de bon ton de soutenir tout ce qui est profitable au pays, comme c'est le cas avec cet accord pour un prêt de dollars qui vient d'être signé entre la RDC et le FMI. Je tiens d'abord à rappeler que quand Mobutu était au pouvoir, l'UDPS allait parfois demander au FMI, à la Banque mondiale, ainsi qu'au gouvernement des États-Unis et de pays d'Europe occidentale, comme la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, de cesser leur aide au gouvernement zaïrois au motif que cette aide était détournée par les dirigeants. Donc, je peux penser que les opposants actuels sont aussi en droit de se poser des questions sur les relations entre la RDC et les bailleurs internationaux, surtout le FMI, et sur la façon dont ces prêts sont accordés. Eh bien, qu'est-ce que j'en pense à titre personnel? Disons que je suis content, certes, que le gouvernement ait pu obtenir autant d'argent, surtout qu'une partie non négligeable, soit 800 millions de dollars, viendra en appui budgétaire au gouvernement. Cependant, je suis en droit aussi de me poser quelques questions sur la gouvernance actuelle du pays, surtout que si le FMI veille ou pas à la normalisation de la gouvernance, conclure de nouveaux programmes et de procéder à de tels décaissements. D'autant que les programmes des institutions de Bretton Woods et les décaissements qui vont avec sont soumises à une batterie de conditionnalités. Je vais vous donner un exemple à titre illustratif. Le deuxième programme qui est prévu et qui porte sur, je crois, 1,1 milliard de dollars, il s'agit de ce qu'on appelle Facilité pour la résilience et la durabilité, FR dans sigle, qui offre un financement à long terme permettant des pays engagés dans des réformes de réduire les risques pour la stabilité future de leur balance de paiement, notamment ceux liés au changement climatique et aux pandémies. Les pays admissibles demandent un accès à la FRD, doivent procéder à des réformes de haute qualité portant sur les défis structurels liés à la préparation au changement climatique ou aux pandémies. Alors, moi je me demande, quelles réformes avons-nous vues dans ce pays pour permettre à la RDC de mieux résister au changement climatique? Dans nos villages, on coupe toujours les arbres. En ville comme dans les campagnes, les charbons de bois sont toujours le principal combustible pour la cuisine. Les briques d'argile cuite, qui sont grandes consommatrices de bois pour leur cuisson, sont toujours tolérées, etc. Alors, quelles sont ces réformes dont parle le FMI? Ensuite, il y a aussi quelques incompréhensions dans l'appréciation du FMI. Dans un communiqué du 8 mai 2024, dans lequel le FMI annonçait que son équipe congolaise sont parvenus à un accord au niveau des services sur la sixième et dernière revue de l'accord triennal au titre de la facilité élargie du crédit, le FMI affirmait que la performance du gouvernement a été globalement positive et que la plupart des objectifs quantitatifs avaient été atteints et les principales réformes avaient été mises en place qu'à un rythme ralenti. Pourtant, quand nous faisons l'analyse, les chiffres du cadre macroéconomique n'étaient pas aussi bons que voulait le faire croire le FMI. La croissance réelle du PIB était certes élevée à 8,3% pour 2023, mais elle n'était soutenue que par la forte croissance du secteur extractif, donc dans les mines du Haut-Katanga et de l'Oualaba, qui n'est pas pourvoyeur d'emplois. L'inflation est restée très élevée, atteignant 23,8% fin 2023, et même si elle avait diminué légèrement, elle était à 21,2% fin avril. Et le déficit budgétaire intérieur pour 2023 a dépassé les prévisions et atteint 1,3% du PIB.
Et donc l'appréciation du FMI n'était pas objective.
N'était pas du tout objective. Et on se pose la question du pourquoi de ce manque d'objectivité. Il y a quelque chose qui nous semble vraiment étonnant.
Merci.
Mais il y a pire encore. Le ça veut dire l'institution officielle la plus importante en ce qui concerne le contrôle des dépenses publiques, a démontré une gouvernance, franchement, très, très, très insoutenable. Avec 51,2% des dépenses du budget, donc plus de la moitié des dépenses de l'État en 2023, exécutées sans que les structures habilitées ne constatent l'obligation de payer, sans que le ministère du budget ne vérifie la conformité des dossiers et l'exactitude des montants à payer.
Merci, Bilal.
Donc, le ministre des Finances a pu procéder seulement au remboursement de la dette publique par procédure d'urgence et cela a donné jusqu'à 223 millions de dollars de dette intérieure commerciale payée qui n'était pas certifiée. Alors, je conclue en disant, le fait que le FMI donne des satisfaits dans ce genre de conditions incite franchement à se poser des questions, parce que cela semble assez curieux quand même.
Merci Madame Isabelle Pendez-Abikaï. C'est vrai que la RDC a besoin de ses ressources pour notamment financer ses projets de développement. Mais est-ce que le revers de la médaille de tout cela ne serait pas le fait que la RDC s'endette davantage et du coup la RDC pourrait être placée une fois de plus sur cette liste des pays pauvres et très endettés PPTE? Et comme on l'a dit, Matata Ponyo, alors qu'on se rappelle qu'on avait consenti, n'est-ce pas, beaucoup de sacrifices pour sortir de cette catégorie.
Exactement, vous avez raison. Parce que normalement, si on continue dans cet allure où il faut toujours s'endetter, on risquera toujours de rester sur la ligne de pauvreté la plus profonde, en fait. Néanmoins, je salue quand même le courage et la motivation des autorités congolaises d'avoir accédé aussi à ces fonds, parce que normalement, ces fonds devraient appuyer beaucoup plus dans la résilience, et sachant que moi je suis de la partie est de la RDC, nous savons ce que nous traversons avec cette situation de guerre à répétition et que les populations sont beaucoup plus exposées à beaucoup de difficultés, que ce soit économiques ou difficultés sociales. Et moi je pense que ces fonds normalement devraient appuyer d'une manière concrète à ces populations qui ont besoin d'une résilience et d'être accompagnées par les autorités congolaises. Néanmoins, la question que je me pose par rapport à la gestion, parce que tout ce qui est très important pour nous de savoir comment va se passer les différentes activités de résilience, mais aussi quelle sera la part ou soit comment la population sera bénéficiaire de cet argent, qu'on ne puisse pas toujours s'endetter et que ça ne laisse pas vraiment des traces pour la nation, pour le pays et pour le peuple, mais que surtout que nous ne puissions pas regretter pourquoi on a pris cette dette. Nous avons besoin que cet argent puisse réellement profiter et bénéficier à la population congolaise, que les sociales du Congolais puissent quand même être améliorées, que les conditions de vie des Congolais puissent quand même être améliorés par rapport à cet argent.
Merci. Benoît Faït, que répondez-vous à cette opinion selon laquelle le FMI n'est plus regardant sur la gestion des fonds qu'il accorde aux différents États?
Écoutez, je ne souhaite pas me prononcer sur le débat qui agite la majorité de l'opposition sur ces questions-là interne au Congo, mais il y a une chose qui retient mon attention concernant le FMI. Je me souviens d'une phrase d'un artiste ivoirien, Kikenja Fakoli, pour ne pas le citer, qui disait que lorsqu'on est nu, même au diable, on souhaite la bienvenue. Et le problème ici avec le FMI, c'est qu'on sait par le passé vers quoi se dirige l'après du FMI. Ce n'est pas dénué d'idéologie. On sait qu'il y a eu à l'époque les grandes institutions financières internationales qui ont imposé ce qu'on appelait à l'époque le plan d'ajustement structurel en échange de financement, ont profondément détricoté tout ce qui était service public dans les pays qui ont accepté ces accords. Malheureusement, le FMI est aujourd'hui un des bailleurs de fonds les plus importants sur la planète, et donc on est forcé de négocier ou d'aller frapper à sa porte. Mais il y a toujours un danger à s'acoquiner avec le FMI, c'est qu'on va être obligé de suivre son idéologie. Et moi, je crains surtout que le Congo désinvestisse encore plus dans ses services publics, alors que je pense que s'il y a bien aujourd'hui une chose qui pourrait aider les citoyens congolais au quotidien, c'est de renforcer ses services publics. Et je ne pense pas que c'est ça que le FMI attend de la République démocratique du Congo en passant des accords avec elle, et ça m'inquiète.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Madiabwana avec Papa Noël, et on se retrouve juste après.
Bakolite, pasina yo pasina nga mama lelo soki tokabwani Bara tombo si na nyako bokolo mama na magie eh.
Anya bana sibule ise. Mami kelebe. Mami sonake. Tosa la lika la monamu.
Sekri anda kwa moninga. Olingi.
C'était Madiabwana, une façon pour nous de continuer à rendre hommage à ce célèbre auteur, compositeur et guitariste Papa Noël Nedoulé, qui nous a quittés lundi 11 novembre en France à l'âge de 83 ans. Paix à son âme. Je rappelle que nous avons dans cette émission Bélard Mbouy, les journalistes et directeurs du site d'information économique finance-cd.com. Madame Isabelle Pendeza, elle est membre de la société civile du Nord Kivu et elle est présidente du collectif des associations féminines de développement Café dans Sigle. En ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Benoît Feit, il est journaliste à la RTBF. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a annoncé mardi 12 novembre lors de la clôture du dernier panel que la clôture des États généraux de la justice en République démocratique du Congo, prévue initialement mercredi, est repoussée à 72 heures. D'après Constant Mutamba Tungunga, ce report a pour objectif de permettre aux participants d'approfondir les propositions à formuler. Madame Isabelle Pendeza-Bikai, vous êtes parmi les participantes à ces travaux des États généraux de la justice. Vous avez souhaité nous parler de l'implication de la population congolaise dans le fonctionnement de la justice en RDC. On vous écoute.
Comme nous avons d'abord commencé, nous avons commencé par différentes présentations que nous avons suivies avec intérêt par rapport à la justice qui est malade et quelle thérapie pour soigner cette justice. La justice congolaise, oui, elle est malade, mais comment la soigner? La population congolaise reste d'ailleurs les consommateurs finaux de cette justice. Moi, je pense que si on peut parler plutôt de l'implication de la population dans le fonctionnement de la justice congolaise, qui est d'ailleurs indispensable, on doit comprendre comment garantir l'efficacité, l'indépendance et la transparence du système judiciaire, bien que les efforts aient été déjà été fournis ou réalisés pour renforcer cette participation à travers des mécanismes comme les consultations populaires, comme la sensibilisation qui a été faite, mais beaucoup reste encore à faire. Mais pour améliorer la situation, il est crucial d'identifier plutôt des actions en matière d'éducation civique, mais aussi en matière d'éducation patriotique, parce que je pense que la justice n'est pas une question d'une personne. La justice, c'est une question de toutes les différentes parties prenantes. C'est pas seulement comme on l'a dit, comme on l'attend d'ailleurs sur les réseaux sociaux, que la justice est le malade à cause des magistrats, les autres disent à cause, je ne sais pas, de politiciens. Il y a plusieurs causes qui rendent cette justice malade. Mais c'est quoi le rôle de la population congolaise qui est consommateur de cette justice? Je pense que nous devons encore beaucoup plus promouvoir les réformes exclusives qui vont associer les citoyens aux décisions qui affectent leur vie de chaque jour. Ce n'est qu'avec une participation active de la population que la RDC pourra espérer un système judiciaire plus juste et plus fiable. Et alors, la population aussi a sa part de responsabilité. Mmh. Si la population ne connaît pas les instruments, ne maîtrise pas les procédures judiciaires, alors la population ne saura pas non plus comment accéder à la justice. Nous avons travaillé sur l'accès à la justice et le droit pour tous. Tout le monde a droit à la justice et tout le monde aussi doit accéder à la justice, mais la population doit être bien informée par rapport à l'accès à la justice, mais aussi aux procédures judiciaire.
Merci. Benoît Feit, comment cette question d'implication de la population dans les fonctionnements de la justice est-elle gérée en Belgique?
Écoutez, nous n'avons pas le débat que vous avez au Congo sur la justice, qui ne veut pas dire que la justice en Belgique est parfaite. On a de véritables problèmes de lenteur de justice, de dossiers qui traînent depuis des années. On a des problèmes également liés à la situation carcérale dans nos prisons. Alors certes, les prisons de Belgique ne sont pas dans un état aussi pitoyable que celle de Makala et de bien d'autres à travers le pays. Mais néanmoins, la Belgique est régulièrement pointée du doigt pour les très mauvaises conditions dans lesquelles les prisonniers sont incarcérés en Belgique. Donc nous avons nous-mêmes nos problèmes. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'en République démocratique du Congo, le chantier de la justice est important. Le président de la République l'a annoncé lui-même, l'a déclaré lui-même. On sait, il a qualifié cette justice de malade. Il y a une volonté d'y réformer. Mais est-ce que, sans entamer un bras de fer avec les magistrats, en pointant les responsabilités des uns et des autres est la meilleure manière d'aborder le chantier, je n'en suis pas convaincu. Et je pense que là, derrière la justice, il y a finalement un problème de fond, qui est toujours le problème de la corruption, le problème de l'influence politique sur le système judiciaire. Et ça, ça demande pas forcément une implication directe des citoyens, je dirais. Ce que ça demande surtout, c'est une révolution de la culture politique, de gens qui occupent des fonctions importantes, que ce soit dans la justice ou dans la politique, à l'Assemblée nationale ou ailleurs. Et là, je pense que les citoyens, ce qu'ils peuvent surtout faire, c'est demander à leurs élus d'être comptables du travail qu'ils vont faire dans les semaines et les mois à venir pour réformer la justice congolaise, à savoir mettre de la pression sur les élus en disant « si vous ne faites pas un travail pour réformer la justice dans un sens de plus de justice, plus de respect des droits de l'homme, plus de respect de l'état de droit, nous allons à terme nous détourner de vous ». Et je pense qu'il est important que la population, qu'elle soit congolaise, belge ou autre d'ailleurs, ait conscience qu'elle peut agir sur l'action politique indirectement, parce que les électeurs, en fin de compte, peuvent faire et défaire les pouvoirs. Et donc, il y a là derrière peut-être un message que je souhaite partager avec les concitoyens congolais et congolaises, à savoir de dire, soutenir un pouvoir n'est peut-être pas la meilleure posture, enfin soutenir un pouvoir aveuglément, à bout de bras, n'est peut-être pas la meilleure posture pour un électeur ou une électrice. Je pense qu'un électeur ou une électrice fait des choix en âme et conscience, il soutient quelqu'un ou des personnes en faisant confiance, mais durant l'exercice du mandat, ils doivent être extrêmement critiques sur la façon dont ce mandat est exercé. Ce n'est que comme ça qu'un électeur peut favoriser l'émergence de la démocratie et de l'état de droit. Et donc je souhaite qu'à travers ce chantier de la justice qui est ouvert, peut-être les citoyens congolais parviendront à se faire entendre et peut-être à menacer leurs élus et leurs élus de ne plus voter pour elles ou pour eux si à l'avenir ils ne se comportaient pas comme les citoyens l'entendaient.
Merci Bellard Mouy, nous allons finir cette émission avec vous. Que faut-il faire à votre avis pour impliquer davantage la population dans le fonctionnement de la justice afin que cette population puisse s'approprier les décisions de cette justice?
Moi je crois que ce que le peuple veut en ce qui concerne la justice, c'est deux choses. La première, c'est une justice indépendante, réellement indépendante, c'est-à-dire une justice qui s'exerce à l'abri de tout. Toute intervention injustifiée ou ingérence et les décisions des tribunaux sont respectées par tous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le peuple veut, c'est que les magistrats puissent régler les affaires dont ils sont saisis de manière impartiale, donc une justice vraiment juste et d'après les faits et conformément à la loi, sans restriction et sans être l'objet d'influence, incitation, pression, menace ou intervention indue, directe ou indirecte de la part de qui que ce soit, pour quelque raison que ce soit, jamais. Donc c'est ça ce que le peuple veut. Et comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à cela? À mon humble avis, pour assurer l'indépendance de la justice, d'abord, il faut détacher le parquet de la tutelle du gouvernement, c'est-à-dire du ministre de la Justice. Il faut assurer l'indépendance du parquet, c'est-à-dire le ministère public ne doit pas dépendre du ministre de la Justice. C'est-à-dire lorsqu'il ouvre son dossier, il s'est saisi d'un dossier, le ministre de la Justice ne doit pas intervenir pour lui dire non, arrête de faire ça, cela, etc. Non, le parquet doit être indépendant du ministre de la Justice et on doit constitutionnaliser cette indépendance du parquet, c'est-à-dire le mettre dans la constitution de manière à bien la sacraliser. Et la deuxième chose, pour que la justice soit vraiment juste, à mon humble avis, c'est que le peuple veut d'ailleurs. Il faudrait deux choses à ce niveau-là aussi. Il faudrait mettre le magistrat dans de très bonnes conditions de travail et de rémunération, qu'ils puissent vivre correctement de leur salaire. Et deuxième chose, renforcer les prérogatives du Conseil supérieur de la magistrature afin de pouvoir sanctionner sévèrement tous les magistrats qui se seront rendus coupables de jugements iniques, qui se seront rendus coupables de faits répréhensibles, de condamnation de personnes innocentes ou d'acquittement de personnes coupables. Donc c'est cela qu'il faudrait faire. Alors, quand ça concerne l'implication de notre peuple, je crois qu'il faudrait que notre classe politique puisse à présenter des offres politiques valable lorsqu'il y a des élections. Que chaque parti puisse nous dire à l'avance qu'est-ce qu'il veut faire s'il est au pouvoir en matière de justice, par exemple. Voilà ce que nous voulons faire. 1, 2, 3, 4, 5. Et l'autre parti, il dit aussi son programme. Le peuple arrive à comparer. Et lorsque le parti qui a été élu accède effectivement, il a pris son programme. Et lorsque il ne l'applique pas bien, le peuple doit le sanctionner aux élections qui doivent suivre, de manière à essayer une autre mouvance politique aussi pour voir ce à quoi il peut aboutir. Voilà. Si le peuple, par contre, choisit des gens qui font des promesses, j'en arrive au pouvoir, il n'applique pas ses promesses. Là, il laisse la justice dans sa maladie et il revient, le peuple les révolte encore. Donc notre peuple sera considéré comme un peuple inconscient qui est complice lui-même de son malheur. Merci. Voilà ce que je pouvais dire sur ce dossier.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Isabelle Pendeza Bikai, qui est au studio ici avec nous. Merci d'être venue, Madame Pendeza.
Merci beaucoup.
Bikai Isabelle. Benoît Faït et Bélard Mouilly. Merci aussi à Billy Landry Betou, qui était la technique, avec la participation de Christian Lomombe, Didier Dali et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 20h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Parfait Nangai de Juna Janana, chanson sortie en 1983 dans l'orchestre Langa Langa Star avec les 7 patrons. On écoute donc Parfait Nangai et on se retrouve le samedi prochain.
Oh, Deliver.